Bonjour à tous, et je voudrais bien sûr remercier les organisateurs et notamment Madame Savant pour de nous avoir invités ici. Je voudrais commencer par expliquer que Catherine Mikus-Bezia et moi-même ne sommes pas interprètes médicaux. Nous sommes des interprètes de conférences. Ce n'est pas un problème parce que, et nous allons vous expliquer pourquoi nous sommes arrivés à cette conclusion, nous estimons exercer le même métier que les interprètes médicaux, quoique dans des conditions différentes. Je voudrais commencer par trois points. Tout d'abord, je voudrais remercier l'orateur précédent qui rentre dans la salle, M. Weber, de nous avoir donné une transition aussi naturel et agréable. Il a posé toute une série de questions sur l'interprétation, le mot ou le sens, l'équivoque, et j'espère apporter quelques débuts de réponses à ces questions, bon, même si ce sont des questions très vastes et qui concernent beaucoup plus que l'interprétation, la communication humaine de manière générale peut-être. Sur une note un peu plus triste, je voudrais avoir une pensée pour Myriam Schlesinger qui a été évoquée en début de session, et malheureusement Myriam, qui a fait un travail énorme pour l'interprétation, que ce soit de conférences sociales ou médicales, et notamment en Israël, et qui a compris son travail comme étant une défense de l'humanité, je pense. Malheureusement, elle est morte le week-end dernier, donc après une très longue maladie. Donc. Le troisième point, c'était un exemple. Hier soir, j'ai quitté le bureau et j'ai expliqué à ma secrétaire que j'allais à cette conférence sur l'interprétation médicale, et je lui ai expliqué un peu de quoi il s'agissait. Et elle a eu un cri de cœur, en disant « Ah mais oui, moi je connais ça, enfin je sais ce que ça veut dire parce que je me suis cassé le bras à Innsbruck il y a 20 ans et c'était atroce. Il n'y avait personne qui parlait français, moi je ne parle pas allemand, on essaye de se débrouiller dans un genre d'anglais incompréhensible. Et j'avais vraiment besoin de parler français. » Et M. Weber a dit, bon, on peut guérir ou réparer une fracture sans parole. Effectivement, sa fracture a été réparée. Mais 20 ans plus tard, elle gardait en elle encore cette détresse de ne pas avoir pu exprimer sa douleur, être entendue et être rassurée par un médecin. Et encore, bon, l'exemple est mineur par rapport aux situations que vous connaissez en tant qu'interprète médicaux ou médecin. Puisqu'elle était en vacances, elle allait revenir en France, elle avait son mari à ses côtés, etc. Quand même, c'est une blessure qui reste en elle, cette absence de parole. Voilà donc les différents points que je voulais dire au départ. Quand je dis interprétation sans autre précision, c'est l'interprétation de conférence. Et je vous expliquerai par la suite pourquoi moi et Catherine, nous parlons d'interprétation et non pas d'interprétariat. En passant, ce n'est pas dramatique, mais bon, les mots comptent, sinon on ne serait pas là. Voilà. Donc, l'activité d'interprétation a longtemps été laissée à l'initiative individuelle, à l'improvisation. Et cela donne lieu à des anecdotes assez amusantes dans la petite histoire de l'interprétation sur les premières tentatives de, disons, formation ou de recrutement, avec des méthodes très expéditives. Bon, par exemple, les colons français, lorsqu'ils sont arrivés au Sénégal, ont mis en place une école des otages, c'était le nom officiel, à Saint-Louis. Ils enlevaient les fils des chefs, ils les mettaient dans l'école des otages, ils étaient prisonniers, et ils leur enseignaient le français, et ils devenaient des interprètes. C'était très commode. Jacques Cartier au Canada procédait de même avec l'enlèvement de jeunes Amérindiens, en général fils de chef, justement parce que c'était une garantie de calme et façon d'éviter les guerres. L'émergence d'une profession structurée pour ce qui concerne l'interprétation de conférences date surtout de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et au moins dans l'imaginaire populaire, ce n'est pas tout à fait juste, mais c'est comme ça qu'on perçoit les choses. La professionnalisation a commencé avec les procès de Nuremberg, où on voit des interprètes en simultané. Ils ne sont pas encore dans leur petite boîte, les cabines, mais ils sont derrière une vitre. C'était la première fois que le grand public voyait la simultanée lors d'un événement historique et hautement symbolique. Et cette visibilité entraînait de fait une reconnaissance du rôle joué par les interprètes dits de conférence. En l'occurrence, c'était des interprètes judiciaires, puisqu'il s'agit d'un procès, mais quand même. Et je pense que par la suite, les enjeux de la guerre froide ont permis de consolider cette reconnaissance et donner du prestige à l'interprétation, bon, toujours dite de conférence. On peut se demander quel est l'objet de l'interprétation. Et M. Weber s'est posé la question à plusieurs reprises, nous a posé la question dans sa présentation. Les études universitaires portent en général, au moins jusqu'il y a une vingtaine d'années, sur la traduction écrite plutôt que sur l'interprétation. Donc il s'agit de textes écrits, des objets statiques, finis, et séparés de l'original dans le temps et dans l'espace. Et par conséquent, on arrive à une analyse plutôt contrastive où on prend les éléments linguistiques et pragmatiques formels de l'original et on les compare aux éléments linguistiques, pragmatiques, formels de la traduction. Évidemment, ça donne lieu à des interrogations sur la notion même de traduisibilité. Peut-on traduire des unités linguistiques qui sont ancrées dans une réalité culturelle et temporelle très différente? Peut-on traduire des éléments linguistiques pour lesquels il n'existe pas de correspondance directe dans l'autre langue? On donne des exemples comme Bequemlichkeit, etc. Bon, peut-on traduire des plaisanteries, des blagues? Peut-on traduire des éléments qui sont supposés relever de la réalité culturelle unique à telle ou telle langue? Et qu'en est-il de la poésie, de la littérature, où, et je reprends les termes de l'orateur précédent, où les modes d'expression et le sens sont tricotés ensemble? Est-ce qu'on peut détricoter et retrouver le même pull à la fin? Bon. Autant d'interrogations qui ont très longtemps et toujours aujourd'hui préoccupé des chercheurs et des théoriciens de la traduction. En fait, si l'étranger symbolise le paradigme de l'altérité, on pourrait dire que la traduction est le paradigme de l'incommunicabilité. Mais c'est une incommunicabilité théorique qui, en fait, est démentie tous les jours dans la pratique. Et justement, les études sur l'interprétation ont tourné le dos résolument à ces interrogations théoriques de la traductologie et on cherchait une explication de la réussite constatée tous les jours de l'interprétation. Donc c'est une analyse qui est très différente. Pourquoi ? Parce que les premières recherches ont été menées par des interprètes qui n'avaient pas de formation théorique, qui l'ont acquise par la suite par intérêt et donc avaient un regard qui était très différent. Donc l'observation de l'interprétation, donc de leur exercice, a mené à un constat de réussite et ces études ont commencé dans les années 60, surtout avec les travaux de Seleskovitch et ensuite Lederer et par la suite toute une série d'autres interprètes, surtout des interprètes praticiens. Aujourd'hui, il y a une recherche très active qui porte davantage sur l'interprétation disons judiciaire et sociale, y compris médicale, mais qui est toujours menée par des interprètes eux-mêmes. Alors, qu'a-t-on constaté? On a constaté qu'on avait affaire à un acte dynamique donc un échange. On avait affaire à des interventions dans une situation qui réunit en même temps et dans un même espace tous les acteurs. Donc l'orateur, l'auditeur, qui alterne, et l'interprète. Et on avait affaire, en principe tout au moins, à des acteurs réunis avec une volonté de communication. Ce n'est pas toujours le cas, mais on suppose que c'est le cas. Et je voudrais, c'était pour illustrer le prestige de l'interprétation de conférences. Bon, c'est impressionnant, la grande salle aux Nations Unies à New York. Je voudrais vous montrer un premier exemple. D'abord l'original et ensuite l'interprétation pour vous montrer les caractéristiques typiques de la parole, donc de tout ce que je viens de décrire, de la parole en situation où interviennent des interprètes. Si vous regardez l'original en anglais, cette phrase est difficilement compréhensible. Ce n'est pas que vous ne comprenez pas du tout l'anglais, c'est parce que la phrase est difficilement compréhensible hors situation. C'est une phrase qui intervient dans une conférence sur la macroéconomie, donc on se demande ce que ça fait là. Et c'est une phrase qui est spontanée, qui n'était pas préparée, contrairement à une traduction qui travaille sur un texte fini, donné. C'est une réaction à d'autres interventions et la phrase n'est compréhensible que dans cette situation et à un moment donné, où les attentats à New York étaient encore présents ou sont encore présents à l'esprit de tous. On voit donc qu'il y a finalement une grande différence entre des significations potentielles en langue, si on prend l'ensemble de ces mots et on essaye de trouver des significations en langue, c'est-à-dire en fait le résidu d'une pratique du langage tel qu'on peut trouver dans des dictionnaires. Donc, signification langue, d'une part, et le sens dans la parole. Et ça répond en partie aux interrogations de M. Weber. Le sens dans la parole existe parce que, bien sûr, il y a des mots qui ont été prononcés. Donc, il y a un élément, un apport linguistique. Mais ces mots ne réalisent leur sens que grâce à ce qu'on sait de la situation et ce qu'on sait du monde, donc des connaissances situationnelles, mais aussi extralinguistiques de manière très large. On trouve donc l'interprétation qui était beaucoup plus longue, ça arrive, parfois c'est plus court. Lutter contre le terrorisme s'impose certes, mais n'oublions pas que le sida fait chaque jour 2,5 fois le nombre de victimes du World Trade Center. Bon, si on se place du point de vue de la linguistique comparée, l'interprétation est fausse. On constate un remaniement de l'implicite et de l'explicite. Il y a beaucoup d'omissions, il y a beaucoup d'ajouts. C'est ainsi qu'on a jugé les interprétations dans un premier temps. L'interprétation n'est pas correcte. Or, les traducteurs, enfin les chercheurs en interprétation vont regarder ça autrement et vont constater que cette reformulation d'un sens a permis de maintenir un échange, a permis aux intervenants de comprendre le positionnement des uns et des autres, de manière assez subtile d'ailleurs, et donc est réussi. Conclusion. L'objet de la traduction ou de l'interprétation, ce n'est pas la langue dans sa potentialité, donc ses significations, mais l'actualisation d'un sens unique recréé à partir d'éléments linguistiques et extra-linguistiques, connaissance du monde, de la situation, de l'ensemble de l'acte de communication. Il est à noter que les théories en traduction, je parle de la traduction écrite maintenant, ont peu à peu intégré ces mêmes notions, au moins en partie, les notions de l'auditoire spécifique, enfin du lectorat spécifique, etc. Avec par exemple la Scopus théorie de Vermeer ou les travaux de Toury. Mais cela a pris quelques décennies de plus. Donc le sens n'est pas contenue dans les mots, tout auditeur, qu'il soit interprète ou non, recrée un sens. Pour ce faire, on passe par l'élaboration d'une empreinte mentale qui est alimentée par un ensemble de connaissances, plus la partie linguistique. Tout auditeur doit procéder ainsi. L'interprète, en plus, doit effectuer d'autres opérations. Il doit utiliser cette empreinte mentale pour générer la réexpression. Et il doit vérifier constamment la concordance entre le sens recréé dans son empreinte mentale et ce qu'il s'entend dire. Cela peut surprendre dit comme ça, mais en fait, on a affaire à deux discours. Et le but, c'est d'arriver à l'équivalence exacte des deux discours. Le discours de l'orateur et le discours produit de manière autonome à partir d'une empreinte mentale de l'interprète. Donc, il y a forcément une intervention. Vous remarquerez, quand j'ai décrit les différentes étapes de l'interprétation, je n'ai pas vraiment parlé de la langue. Bon, j'ai dit que l'interprète doit vérifier la concordance entre ce qu'il dit et ce qu'il a créé comme sens mentalement, mais je n'ai pas vraiment parlé de la langue, parce que pour nous, l'interprétation n'est pas, à prime abord, un exercice linguistique. C'est un exercice de recréation de sens. Donc on voit qu'il y a forcément intervention active de l'interprète sur le plan linguistique, culturel, pragmatique. C'est pourquoi nous utilisons, nous, je parle pour les interprètes de conférences, le terme « interprétation », parce que c'est une interprétation dans le sens habituel du terme. Si on admet, et je vois difficilement comment on peut en faire l'économie, l'intervention active de l'interprète, on constate qu'il s'agit quand même d'une profession extrêmement exigeante. Cela suppose une écoute très attentive. Cela suppose une coordination de discours. Et cela suppose par conséquent une formation construite et cohérente. Je voudrais vous montrer maintenant deux exemples qui sont tirés de la formation à l'interprétation de conférences, formation qui est dispensée à l'ESIT, qui fait partie de l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Suivant, voilà. J'ai montré la petite photo parce qu'on voit ce qui se passe quand on fait fausse route. Donc, en haut, vous avez un discours qui a été fait par une féministe américaine qui explique que la situation en Russie est atroce, les femmes ont beaucoup d'avortements. Bon, le discours date un peu, hein. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Que c'est très grave, évidemment ça a des conséquences néfastes pour la santé des femmes, mais évidemment on ne peut pas pour autant interdire l'avortement parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. Si vous regardez la première interprétation faite par un étudiant, on voit qu'il y a quelques éléments. Bon, on a avortement, on a dangereux pour la santé des femmes, mais on n'a pas le positionnement de l'orateur. L'étudiant n'a pas compris le positionnement de l'orateur. Et d'ailleurs, il est obligé de s'arrêter parce qu'il voit bien qu'il y a une incohérence et entre la personne qui parle, qui est féministe, et ce que lui, il est en train de dire. Donc, l'étudiant n'est pas à même d'utiliser ses, je vais les appeler des pré-compétences, ses compétences linguistiques, et ses compétences d'être humain parlant dans une situation très contraignante qui est celle de l'interprétation. Nous en avons parlé en groupe et un autre étudiant a proposé l'interprétation qui figure en vert parce que c'est quand même beaucoup plus respectueuse du positionnement de l'orateur et permet quand même de restituer les éléments essentiels de l'original. Donc, les femmes russes ont beaucoup d'avortements. Évidemment, les avortements à répétition sont très dangereux pour ces femmes. Cependant, interdire l'avortement sans mettre en place aucune autre possibilité relève de l'irresponsabilité sociale. Bon, on a un message cohérent qui respecte l'original. Donc on voit une formation structurée de ce type peut libérer l'étudiant interprète et ensuite le professionnel de la recherche vaine de correspondance linguistique et lui permettre de s'approprier un discours. Il est à noter que les problèmes rencontrés par l'étudiant, le premier étudiant, ne sont pas d'ordre linguistique. Il maîtrise bien ses langues. Les problèmes sont vraiment d'ordre technique et relèvent de la technique de l'interprétation. Donc on n'est pas en train de parler d'enseigner des langues, mais vraiment d'enseigner une technique, des processus interprétatifs. Je voudrais vous montrer un exemple très simple et réussi. C'est une chouette tachetée. C'était un discours fait par l'un des étudiants qui jouait le rôle de l'orateur et qui faisait un plaidoyer pour la protection de l'environnement, qui décrivait pour ce faire des forêts dans le nord-ouest des États-Unis et citait comme espèce témoin de la santé des forêts l'espèce de la chouette tachetée et a dit « I have been fortunate enough to see one ». Et l'interprète a dit très spontanément « J'ai même eu la chance d'en apercevoir une ». Bon, c'est un exemple très banal. Mais le passage de « see » à « apercevoir » n'est pas évident en langue. Et la reformulation spontanée de l'étudiant interprète n'est pas le résultat d'une transposition entre deux unités linguistiques. Il n'a pas consulté un lexique mental bilingue. C'est véritablement la reconstruction mentale, une visualisation d'une scène dans la forêt, la chouette, et sa transmission spontanée à un public francophone. Donc, application d'une technique acquise lors de la formation. Alors, quels sont les dangers d'une interprétation non professionnelle ? Les interprètes de conférences, bon, je vous ai parlé des débuts et du prestige de l'interprétation de conférences. Tout cela a permis d'obtenir des conditions de travail et surtout peut-être de rémunération qui rendent la profession attrayante, qui permettent d'en faire une profession, donc à temps plein, de gagner sa vie correctement, de mettre en place des formations structurées dans une enceinte universitaire, d'avoir un minimum d'accréditation, quoique insuffisante, et d'élaborer une déontologie professionnelle, un sentiment d'appartenance professionnelle. Ce sont autant de critères qui sont énumérés par Abbott pour identifier ce qu'est une profession. Si ces éléments sont absents en totalité ou en partie, et je crois savoir que c'est souvent le cas, pas toujours, mais souvent pour l'interprétation médicale, on se retrouve dans l'improvisation et la confusion. Et comme les profanes pensent très souvent qu'il suffit pour interpréter de comprendre, et encore plus ou moins, les langues, il y a beaucoup d'abus et l'intervention de non-professionnels. En fait, comme nous l'avons vu, il ne suffit pas de reconnaître des unités linguistiques en jeu et d'en connaître des correspondances, si tant est qu'elles existent dans l'autre langue. Il faut beaucoup plus que cela. Donc on voit trop souvent que l'activité d'interprétation, de tous les types d'interprétation d'ailleurs, se déroule sans formation, dans des très mauvaises conditions de travail et sans assurance qualité. Et les dégâts sont considérables. Cela peut être des accusés qui sont mal défendus, des erreurs administratives, des problèmes d'ordre éthique. Pour citer un exemple récent, vous avez peut-être lu dans la presse en Angleterre, il a été décidé d'externaliser à une agence l'interprétation judiciaire et l'agence recrute les interprètes au moins offrant. Le résultat a été qu'il y a eu des interprétations tellement mauvaises qu'on a dû interrompre des procédures, reconvoquer tout le monde. Donc quand on parle d'efficacité, il faudrait peut-être aussi parler du coût de la mauvaise interprétation ou la non-interprétation. Il y avait un exemple qui a été cité dans la presse britannique. Le mérite de cet exemple, c'est que ça a donné lieu à beaucoup de débats publics et a peut-être sensibilisé les gens à la question de l'interprétation. Donc, un exemple qui a été cité, c'était l'avocat qui informe son client que « charges will be brought against you ». Qui veut dire tout simplement qu'il y a un culpé de certains faits. Et l'interprète aurait dit, est-ce que c'est vrai, l'équivalent de « vous aurez des frais à payer ». Puisque le mot « charges » est un mot, comme tous les mots, équivoque en langue, non pas en parole. Dans la situation, il n'y a pas d'équivoque. Mais l'interprète était tellement peu formé, informé et préparé qu'il a choisi l'une des significations au hasard, la plus fréquente peut-être, bon, les frais. Donc voilà le genre de choses qui peut se passer, et j'imagine qu'en interprétation médicale, cela peut être encore plus grave. Bon, au départ, je me demandais si notre analyse en tant qu'interprète de conférence pouvait s'appliquer à l'interprétation médicale, qui diffère à bien des égards et surtout de par ses conditions de travail. Et j'étais tout à fait prête à admettre que l'interprétation médicale pouvait requérir une approche différente, notamment en ce qui concerne le positionnement de l'interprète. Par exemple, j'imaginais au départ volontiers que le maintien par l'interprète de l'utilisation de la première personne, qui est habituelle en interprétation de conférence, pouvait être inadapté à des situations d'interprétation médicale. Bon, quand je travaille, si je dis « je », c'est l'orateur. Si j'utilise la troisième personne, c'est pour parler de moi. Donc je peux dire « l'interprète est désolé, mais n'a pas entendu le dernier mot ». Sinon, je dis « je suis l'orateur ». Okay. Moi, je me suis dit « peut-être que ce n'est pas approprié en situation d'interprétation médicale, par exemple ». Peut-être faut-il expliquer beaucoup plus. Peut-être qu'il faut devenir médiateur culturel. Or, après plusieurs ateliers et groupes de travail avec des personnes appelées à interpréter en milieu médical ou appelées à utiliser l'interprétation médicale, aux côtés de Catherine, nous sommes intervenus à plusieurs reprises dans les hôpitaux de la Seine-Saint-Denis, où il y a une population immigrée très forte. Après tout cela, je suis arrivée à la conviction que la mise en œuvre des mêmes principes et les mêmes normes qu'en interprétation de conférence permet d'une part le respect des intervenants, le respect est un terme je pense qui est capital, permet un véritable échange, oblige les autres, les interlocuteurs à écouter l'autre, et les oblige, s'il le faut, à expliquer davantage, parce que cela peut prendre plus de temps de parler à quelqu'un d'une autre culture qui utilise une autre langue. Ben, c'est comme ça. Et j'en arrive à la conviction que nous exerçons le même métier, mais dans des conditions malheureusement défavorables, souvent pour les interprètes médicaux. En résumé, je dirais que l'interprétation n'est possible qu'à condition qu'on accorde une responsabilité à l'interprète de comprendre et rendre le sens, donc de l'autoriser à construire un discours à partir du sens qu'il a saisi. Et sans cette autonomie, l'interprétation ne peut que buter sur des difficultés supposées insurmontables, la polysémie de la langue, l'ambiguïté, la différence radicale entre des systèmes linguistiques et culturels. Mais qui dit responsabilité dit aussi formation. Cette responsabilisation ne peut se justifier si les interprètes n'ont pas accès à une formation solide. Elle ne peut se justifier non plus si la société ne valorise pas leur travail par une certification, par un contrôle et par des conditions correctes et une reconnaissance professionnelle. Autrement dit, la liberté intellectuelle de l'interprète, qui est indispensable pour garantir la fidélité, doit s'accompagner d'un cadre de formation et de contrôle qualité. L'interprétation de conférences a eu de la chance, a bénéficié de structures institutionnelles de l'après-guerre. Elle a eu de la chance aussi parce qu'il y a eu des personnages remarquables comme Danica Seleskovic qui ont su saisir et exploiter la chance offerte. Mais elle a la chance d'être très visible et de jouir du reflet du prestige des événements où elle intervient. Je pense qu'il est maintenant largement temps que nos sociétés accordent une reconnaissance équivalente aux autres formes d'interprétation, judiciaire, sociale et médicale. Et peut-être notamment à l'interprétation médicale qui se déroule dans des situations parfois techniques, mais toujours faisant appel à une sensibilité humaine et une déontologie stricte. Je vous remercie. Et je cède la parole à Catherine qui va parler de son expérience en tant qu'enseignante, interprète et son travail avec les interprètes médicaux.